Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Évoquons maintenant l'une des informations principales du jour, la réforme des retraites. Le haut commissaire à la réforme des retraites a dressé le bilan de la première phase de concertation mercredi. Il a dessiné l'ébauche du futur système de retraite promis par Emmanuel Macron. Pour en parler, nous sommes avec un économiste de la Paris School of Economics, Simon Rabaté. Bonjour.
Bonjour.
Simon Rabaté, il faut tout d'abord que vous nous rappeliez pourquoi il faut une réforme des retraites. Après tout, de quel mot souffre notre système ?
Alors ça c'est donc le pourquoi cette réforme des retraites, c'est des questions qu'on a développées dans une note qui a été publiée par l'Institut des politiques publiques, donc coécrit avec Maxime Thau, Antoine Bozio et Audrey Rhin. Donc on dressait le constat de trois problèmes dans le système actuel. La première, c'est une complexité assez importante, c'est un manque de lisibilité, donc avec de nombreux systèmes qui fonctionnent avec des règles différentes, donc qui rendent complexe la compréhension du système par les assurés.
C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas finalement quelle va être leur retraite, quelles sont les règles auxquelles ils sont soumis.
Oui, tout à fait, il y a vraiment une, même si il y a des efforts qui sont faits dans pour améliorer la communication sur le droit des assurés, il y a vraiment quand on regarde dans les sondages d'opinion, les gens sont très peu conscients de quel droit, des droits auxquels ils ont le droit, et donc voilà, ça c'est un problème pour le système.
Si je faisais du mauvais esprit, je vous dirais que c'est peut-être fait pour.
Bah, c'est vrai que quelque part, on a envie peut-être que les gens ne se rendent pas forcément compte de leurs droits, des baisses de pensions qui ont été prévues dans le futur. Donc, après, là, ça dépasse la compétence de l'économiste sur ce point.
Deuxième point, puisque vous en citiez trois, Simon Rabaté.
Donc, le deuxième point, c'est le fait que la solidarité dans le système est pas forcément aussi bien ciblée qu'elle pourrait l'être. Donc, on a, donc ça, c'est les travaux de l'INSEE qui l'ont montré, on a un cœur du système. Donc, c'est-à-dire dans la formule de calcul de la pension qui est anti-redistributif dans le sens où il va bénéficier plus aux gens qui ont des carrières ascendantes. Donc il ne faut pas forcément rentrer dans la technique, mais l'idée...
Non mais quand même, déjà expliquer ce que c'est qu'un système anti-redistributif, parce qu'en fait il y a deux grands systèmes de retraite.
D'accord, donc en gros l'idée, donc quand on dit un système anti-redistributif, c'est on va quelque part comparer la dispersion des salaires durant la période d'activité à la dispersion des retraites pendant la période de retraite, et on va voir dans quelle mesure le système de retraite va réduire les inégalités.
C'est-à-dire finalement, il y a beaucoup d'inégalités de salaire lorsque les gens sont actifs. Est-ce que lorsque les gens sont retraités, eh bien l'écart entre les petites retraites, les grandes retraites, s'amenuise par rapport à l'écart des salaires?
Exactement. Et donc on a bien un système qui est très redistributif dans le sens où les dispersions de pensions sont bien moins importantes que les dispersions de salaires.
Donc c'est un bon système du point de vue de l'égalité.
Mais qui pourrait être amélioré dans le sens où on a beaucoup de dispositifs de solidarité qui sont très utiles, mais qui viennent compenser un cœur du système qui n'est pas forcément, lui, égalitaire, dans le sens où il va plus récompenser les gens qui ont des carrières ascendantes, qui sont généralement les gens les plus riches.
Et la troisième difficulté soulevée donc par le système actuel des retraites, Simon Rabaté.
Donc la troisième difficulté, c'est sans doute, peut-être la plus importante, c'est le fait que le système n'est pas forcément à l'équilibre à long terme.
Alors ça, c'est effectivement le danger que l'on agite. Est-ce que c'est un danger réel ? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le chiffrer ?
Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire un peu attention dans le sens où on ne veut pas tomber dans le catastrophisme, parce que on a souvent une forme d'inquiétude forte par rapport au système de retraite, avec l'idée que on n'aura plus de retraite pour les générations futures et tout ça. Donc ça, il faut quand même le marteler, c'est pas vrai.
Aura, pourquoi c'est pas vrai?
On a un taux de prélèvement important dans le système de retraite qui est amené à rester constant au cours du temps, et donc qui permettra de garantir à toutes les générations futures une retraite. Après, la question, c'est quelle retraite? Mais en tout cas, une retraite.
Oui, donc, ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de rappeler que de toute façon, les générations futures auront une retraite.
Mais si on dit, par exemple, qu'il y a de moins en moins de jeunes actifs et de plus en plus de personnes retraitées, donc ça, c'est une première difficulté. Alors, on soupçonne que cela aura des conséquences. On se dit aussi qu'il y a un niveau de chômage qui est élevé depuis longtemps et que forcément, eh bien, les personnes qui sont au chômage ne cotisent pas comme des actifs. Est-ce que ces deux facteurs-là, Simon Rabaté, ils sont pas à même de nous faire peur sur les retraites futures?
Donc c'est vrai que un des déterminants principaux de l'équilibre financier du système, c'est le rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Et donc ce nombre d'actifs, le rapport entre le nombre de retraités et son nombre d'actifs est amené à augmenter au cours du temps, du fait de l'allongement de l'espérance de vie, comme vous l'avez dit, et potentiellement de la baisse du nombre d'actifs. Mais c'est vraiment la question de l'allongement de l'espérance de vie qui est la plus importante dans l'évolution de long terme du système. Et donc évidemment, donc on le voit assez simplement, si on a dans un système de retraite par répartition, on finance les retraites par les cotisations, si on a un allongement de l'espérance de vie, on va avoir un besoin de financement accru.
Donnez-nous un ordre d'idée, Simon Rabaté, du déficit du système aujourd'hui, si déficit il y a, mais on n'arrête pas de nous parler donc du problème de financement. On parle de quelle somme ?
Donc à long terme, le système est dans les donc c'est le Conseil d'orientation des retraites qui fait des projections annuelles sur l'équilibre financier du système. À horizon annuel, dans un scénario pas de référence, mais donc le scénario de base qui est avec une croissance de 1,3% et un taux de chômage de 7%. Et sous diverses hypothèses
démographiques,
on est à l'équilibre. Mais par contre, le problème, c'est un des problèmes principaux du système français, c'est que si on s'écarte de ces hypothèses centrales du scénario de base, on va faire potentiellement des forts déficits. C'est-à-dire que si on a une espérance de vie qui est plus élevée que celle qu'on prévoit dans le scénario central, ou si par exemple on a une croissance qui est moins forte, donc si on n'est pas à 1,3 mais plutôt à 1 ou à 0,5, on va se retrouver dans une situation de fort déficit, et de déficits qui sont de l'ordre de 1,5 point de PIB à horizon 2070. Donc des déficits quand même très importants.
Donc il y a effectivement un risque. Ce risque n'est probablement pas, d'après ce que vous dites en tout cas, Simon Rabaté, aussi urgent, aussi catastrophique qu'on pourrait le croire.
Bah alors ça, c'est... J'irais pas forcément dans ce sens-là, dans le sens où on a vraiment un système qui est...
Vous dites qu'aujourd'hui il est à l'équilibre.
Il est à l'équilibre dans une certaine hypothèse. Mais en fait, qui sait dans quelle situation la France sera en 2070. Donc un des objectifs importants du système de retraite, c'est quelque part d'être à l'équilibre, quel que soit l'environnement économique et démographique. Donc on a vraiment besoin d'un système qui va être résilient à ces différentes possibilités, qui va dont l'équilibre ne dépendrait pas du contexte macroéconomique.
Alors par rapport à cela, donc la réforme des retraites, elle repose tout d'abord sur un système universel par répartition et par points, et c'est cela le cœur de la révolution qui est aujourd'hui portée par Jean-Paul Delevoye, qui est donc haut-commissaire à la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi un système universel par répartition et par points constitue une véritable rupture, Simon Rabaté ?
Alors, donc par rapport le projet de réforme, donc il y a plusieurs réformes en une. Donc il y a la première qui est l'unification du système. Donc ça c'est quand même déjà une première réforme qui est de, on va plusieurs systèmes qui fonctionnent avec des règles différentes, on en prend une seule et on prend un système en points. Donc comme il en existe encore déjà aujourd'hui en France dans les régimes complémentaires du privé. Donc la question c'est dans quelle mesure le nouveau système va permettre de répondre aux questions, aux critiques qu'on a sur le système actuel. Donc évidemment, si on a un seul système, ça améliore la lisibilité. Mmh. Ça, c'est évident.
Bon, l'égalité peut-être aussi.
L'égalité, alors ça, faut un peu être méfiant par rapport à ça, dans le sens où les différences qu'on a entre les différents régimes aujourd'hui reposent également sur des taux de cotisation différents. Mmh. C'est-à-dire que dans la fonction publique ou dans certains régimes spéciaux, on a des taux de cotisation qui sont plus importants et qui font qu'on a une plus grande générosité. Donc est-ce que le changement de formule de calcul en soi va améliorer l'équité du système entre les régimes ? On peut pas trop encore le dire pour l'instant.
En tout cas, c'est ce que dit Jean-Paul Delevoye, puisqu'il explique que le principe de la réforme, c'est même carrière, même revenu, même cotisation, même retraite. Il a raison.
Oui, tout à fait. Dans le sens où là, dans ce cas-là, si on applique les mêmes règles à tout le monde, on garantit en un sens plus d'équité. Mmh. Mais le constat sur la situation actuelle, dans quelle mesure la situation actuelle est inéquitable entre individus de différents régimes, il n'est pas complètement clair. Donc dans quelle mesure la réforme va vraiment améliorer l'égalité du système, ça on ne peut pas encore vraiment le dire aujourd'hui.
Alors on ne peut pas le dire aujourd'hui, mais en tout cas il y a une volonté donc de fondre les 42 régimes de retraite. 42 c'est beaucoup, est-ce que dans les autres pays on a une telle pluralité de systèmes de retraite ?
Alors non, ça c'est vraiment une spécificité française, pardon, qui est liée à l'histoire du système de retraite, à comment il s'est construit au fur et à mesure un peu par corporation de métiers. Donc voilà, c'est lié à l'histoire française et il y a également quelques justifications à ça. On a donc comme je parlais tout à l'heure du taux de cotisation, on peut imaginer que certaines professions souhaitent avoir un taux de cotisation plus élevé que d'autres pour épargner plus pour leur retraite de manière collective. Donc voilà.
Les métiers les plus pénibles, parce que y a ça aussi, c'est-à-dire que l'on considère que certains métiers ont une pénibilité qui expliquerait que les personnes partent à la retraite plus tôt. Est-ce que ça, le système des retraites change quelque chose à ce principe ?
Alors là, c'est un autre point sur le système à points, c'est que peu importe quelque part le système, on peut faire toutes les solidarités qu'on a envie de faire. Donc ça, la règle de calcul va pas vraiment jouer dans ce cas-là. On peut tout à fait, comme on fait aujourd'hui, créditer des trimestres pour les périodes de pénibilité. On peut également créditer des points pour les périodes de pénibilité. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont orthogonales à la question du système. C'est vraiment de savoir quelle solidarité on veut avoir et quel degré de solidarité on va avoir dans le système.
Et alors, le système français, il serait particulièrement inéquitable pour les femmes. Alors c'est ce qu'on lit, 70% des personnes qui touchent le minimum vieillesse sont des femmes et les femmes ont un niveau de vie inférieur de 14% à celui des hommes, alors même qu'elles représentent 57% des Français qui sont à la retraite. Est-ce que cette réforme du système, elle pourrait faire en sorte qu'il y ait plus d'équité entre les hommes et les femmes?
À nouveau, ces questions d'inégalité homme-femme, tout d'abord, elles reflètent principalement des inégalités sur le marché du travail. Donc, le système de retraite n'est pas inégal envers les femmes. Au contraire, il va compenser plutôt les inégalités sur le marché du travail en donnant, par exemple, des trimestres ou des points gratuits pour les périodes de maternité ou pour le fait d'avoir des enfants. Donc, on a, au contraire, un système de retraite qui va compenser les inégalités homme-femme, mais qui va également les refléter.
Et qui ne les compense peut-être pas suffisamment.
Peut-être pas suffisamment. Donc, un système de retraite qui reste contributif va forcément refléter la carrière des individus. Donc, tant que les femmes auront des carrières moins, on va dire, remplies que les hommes, elles auront des retraites plus faibles. Et après, on peut essayer de compenser ces différences par des droits gratuits en plus, mais l'idéal, c'est quand même peut-être de faire en sorte que les carrières soient les mêmes, on aurait moins à compenser ex poste.
Alors ensuite, l'un des soucis qui est posé par cette réforme, c'est le calcul du salaire pris comme repère pour les retraites futures. Alors là, il y a un vrai débat, puisque est-ce qu'il faut considérer que toute la carrière doit être prise en compte? Est-ce qu'il faut prendre la fin de la carrière? Est-ce qu'il faut prendre un certain nombre d'annuités? Bref, on se doute que le système dépend énormément du repère que l'on va prendre. On se doute aussi que les carrières étant de moins en moins linéaires, c'est un choix qui est très important pour le résultat futur, Simon Rabaté.
Donc ça, c'est vraiment la principale différence, on va dire, entre un système en points et un système en annuités comme on a aujourd'hui dans la plupart des régimes en France. Donc c'est l'idée que dans un régime en points, on va prendre en compte l'ensemble de la carrière. C'est-à-dire que chaque année où on travaille, où on va cotiser pour des droits et accumuler des points. Dans le système actuel, on a également un suivi de l'ensemble de la carrière, mais ensuite on va calculer la retraite que sur la base d'un salaire de référence qui va être calculé sur un bout de la carrière. Donc dans la fonction publique, par exemple, c'est les 6 derniers mois. Dans le régime général du privé, c'est les 25 meilleures années. Et donc là, c'est vraiment la différence importante, c'est qu'on va prendre en compte l'ensemble de la carrière. Après, la prise en compte de l'ensemble de la carrière peut avoir des conséquences. On peut pas vraiment dire dès maintenant quelles vont être les conséquences de cette prise en compte de l'ensemble de la carrière pour l'ensemble de la société. Je m'explique. C'est-à-dire que selon le profil de carrière qu'on va avoir, le passage du fait qu'on va prendre seulement le dernier salaire ou uniquement l'ensemble de la carrière va avoir un rôle différent.
Est-ce qu'on peut pas dire malgré tout, Simon Rabaté, qu'aujourd'hui les carrières linéaires constituent malgré tout de plus en plus l'exception?
Tout à fait, mais du coup ça c'est plutôt un argument pour prendre en compte l'ensemble de la carrière. C'est-à-dire que
si vous voulez diminuer les retraites.
Bah non, parce que de toute façon l'ensemble de la carrière va être pris en compte, mais si on a des épisodes, des trous dans la carrière, ils peuvent de toute façon être compensés par des dispositifs qui existent dans le système actuel et qui existeront encore dans un système futur. Donc si on est au chômage, on a également des points. Donc le passage d'un système en annuité à un système en points ne veut pas forcément dire qu'une carrière complète serait pénalisée.
Alors ensuite, on a la question des pensions minimums qui est posée. Est-ce que le système futur va changer quelque chose à ce système-là?
Donc, ce qui est vrai, c'est que on a certaines personnes qui pourraient perdre par le passage d'un système en annuité, par exemple calculé sur les 6 derniers mois ou les 25 meilleures années, à sur l'ensemble de la carrière. Tout le monde ne perdrait pas, mais certaines personnes perdraient. Et du coup, on pourrait avoir peut-être une hausse des pensions plus basses, ou en tout cas, on aurait besoin de repenser un peu la manière dont sont construits nos mécanismes de pension minimale. Donc en France, on a le minimum contributif et le minimum vieillesse. Et donc il y a vraiment une réflexion à avoir dans le cadre de cette nouvelle réforme sur comment est-ce qu'on articule la nouvelle formule de calcul des points avec également des nouveaux minima de pension qui sont mieux construits pour mieux correspondre à la formule d'un calcul en points.
Et au-delà de ça, il y a un certain nombre de cas particuliers. C'est là où on rentre donc dans la manière dont un système de retraite... Alors jadis, il y avait 42 régimes. Si on les fond, obligatoirement, il va y avoir l'obligation d'adapter ce système unique à des situations qui sont très hétéroclites. Alors tout d'abord, il y a la question des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut prendre en compte leurs primes, ça n'est pas un détail pour les fonctionnaires, et c'est d'autant moins un détail que la réforme achoppe sur ce point-là depuis un certain nombre d'années, Simon Rabaté.
Donc ça, c'est vrai que c'est une grande difficulté de la fusion des régimes, c'est-à-dire que c'est pas la même assiette pour le calcul des droits à la retraite dans la fonction publique. On ne cotise pas on cotise uniquement sur le traitement et pas sur les primes.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire ?
Forcément, il va falloir intégrer, si on veut un taux de cotisation unique, il va falloir intégrer de manière progressive, sans doute, les primes à l'assiette de cotisation. Et donc là, un des problèmes qui se double par rapport à cette question, c'est qu'au sein même de la fonction publique, on a des hétérogénéités importantes sur le taux de prime. Donc dans les enseignants, par exemple, ont des taux de prime qui sont très faibles par rapport à, par exemple, les membres de cabinet de ministériel. Donc on va pas, si on intègre...
Il y a quand même plus d'enseignants d'ailleurs.
Tout à fait. Mais si on décide tout d'un coup d'intégrer les primes à l'assiette, ça va pas avoir les mêmes effets et potentiellement ça va avantager plus les gens qui travaillent dans les cabinets que dans les enseignants, chez les enseignants. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on va faire converger le mode de calcul des droits et l'intégration des primes à l'assiette.
Les indépendants, alors là, les indépendants, ils ont jusqu'ici beaucoup souffert, beaucoup cotisé, peu touché, avec de surcroît un système qui était bien connu des indépendants et mal connu du reste de la population, le RSI, qui a été une véritable catastrophe. C'était une caisse de retraite qui était destinée à simplifier les choses, avoir un guichet unique, c'est devenu une usine à gaz, et il y a vraiment eu des drames humains autour du RSI. Est-ce que les indépendants peuvent espérer quelque chose de cette réforme de la retraite ?
Bah ça, c'est une des particularités de la réforme, c'est qu'elle veut vraiment être universelle. Donc, vont vraiment être intégrés
de RSI ou plus de successeurs du RSI qui vont être fondus dans le régime général.
Après, donc, du coup, se poser la question à travers ça de est-ce qu'on prend un taux de cotisation unique pour l'ensemble de la population. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a certains régimes qui ont choisi d'avoir des taux de cotisation plus élevés pour avoir des retraites plus élevées. Les indépendants, c'est l'inverse, ils ont choisi d'avoir des taux de cotisation plus faibles avec des retraites également plus faibles. Avec des transferts d'ailleurs, est-ce que qui ont potentiellement ont été compensés plutôt par les autres régimes que par le RSI. Mais en tout cas, donc c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on va faire converger ces régimes. Est-ce qu'on garde des taux de cotisation différents ou pas ? Et ça, c'est vraiment la question importante pour la convergence des régimes.
Pensez-vous que cette réforme des retraites, en tout cas la manière dont elle est présentée aujourd'hui, Simon Rabaté, elle semble résoudre les questions, les différents problèmes que vous avez soulevés au départ, donc la question de l'équité, la question également de la lisibilité de ce système ?
Donc pour la lisibilité, on se dit bien qu'avec une formule, ça simplifiera vraiment le système. Pour l'équité, alors ça, faut vraiment, on attend de voir quelque part, parce que la solidarité, ça dépendra de la volonté politique qui a d'augmenter la solidarité. Donc voilà, ça, chacun peut avoir ses attentes par rapport à ce système-là. Et le dernier point qui est important, c'est sur l'équilibre financier. On a un peu la réforme qui est présentée comme une réforme qui ne viserait pas à rétablir l'équilibre financier. Et ça, il faut quand même être clair, si on ajoute des règles pour assurer la stabilité financière dans le régime, il faut vraiment avoir un débat sur ce sujet et être clair là-dessus.
Simon Rabaté, vous êtes économiste à la Paris School of Economics. On a vu la question économique liée aux retraites avec vous. On va voir la question politique dans une vingtaine de minutes en compagnie d'Olivier Véran, qui est député La République En Marche de l'Isère et qui est rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Nous retrouvons Simon Rabaté, qui est économiste à la Paris School of Economics, et nous accueillons Olivier Véran. Bonjour, vous êtes député La République En Marche de l'Isère, rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Puis j'ajoute que vous êtes également neurologue au CHU de Grenoble. Olivier Véran, en matière de coup de politique, est-ce que vous pourriez évoquer avec nous le coup de politique du remaniement ?
Le coup de politique du remaniement, bah écoutez, attendons déjà de connaître la nature du gouvernement. J'ai cru comprendre que ce ne serait pas pour aujourd'hui, puisque le président de la République est à l'étranger dans une visite d'État en Arménie. Peut-être demain, on verra. Je suis comme vous, j'attends, suspendu, mais je suis comme vous.
Vous n'attendez pas un peu trop longtemps ?
Je suis comme vous, je ne vis pas suspendu à cette décision, plutôt parce que j'avance et nous travaillons comme tous les Français. Et nous avons un quotidien tout à fait normal. Lorsque le casting gouvernemental sera connu, nous le saluerons. Mais pour la ligne politique, elle ne change pas, elle n'a pas vocation à changer. C'est ce qui est important.
Pour autant, on voit bien qu'il y a un coup politique. Il y a la loi Pacte qui vient d'être adoptée. le gouvernement aurait pu s'en vanter un petit peu, enfin mettre un peu ça en avant, étant donné que c'était une des promesses, elle est réalisée, elle est votée à peu près dans les termes qui étaient convenus, et finalement on n'en parle pas ou très peu à cause de ce qui est en train de se passer politiquement.
Est-ce que vous croyez vraiment qu'on ne parle pas du contenu d'une loi importante pour notre pays en matière de politique économique parce qu'il y a un remaniement? Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas l'actualité du remaniement brûlante, les médias nous interrogeraient davantage sur le fond des réformes que nous votons pour réformer l'économie du pays? Je dis ça avec taquinerie et beaucoup d'amitié parce que je suis sur France Culture ici, mais pour faire un certain nombre de plateaux et en discuter avec nombre de mes collègues. J'en parlais avec la rapporteure de la loi, l'une des rapporteurs de la loi, Coralie Dubos, hier encore. Quand on fait les plateaux et qu'on essaye de parler du fond des lois, c'est extrêmement difficile. On nous ramène toujours aux questions politiques politiciennes. Je doute fort que s'il n'y avait pas eu la question du remaniement, vous n'auriez pas, en tout cas les journalistes, certains journalistes n'auraient pas trouvé autre chose.
Alors vous êtes sur France Culture, effectivement, Olivier Véran, donc on va parler du fond de cette réforme des retraites et puis également de la loi sur la pauvreté, puisque vous avez particulièrement travaillé également sur cette autre loi. Mais juste une chose, malgré tout, on a la sensation, ça a été dit dans les journaux de la matinée, que le magnétisme d'Emmanuel Macron ne perd plus, qu'il a du mal à recruter, que finalement la lenteur de ce remaniement, elle est liée au fait que les perspectives gouvernementales semblent peut-être moins radieuses qu'hier. On a tort de penser ça?
J'en sais strictement rien. Non mais vraiment, c'est strictement rien.
Nous avons invité un ignorant, Stéphane Robert.
Mais il faut être capable de dire quand on ne sait pas. Mais vous savez, et c'est depuis le mois de juin 2017, on en est à plusieurs formations gouvernementales et systématiquement on nous pose les questions et nous-mêmes on se pose la question, mais on n'a pas les réponses. Et vous avez bien vu que chaque fois qu'on fait les pronostics, on a tort.
Vous êtes complètement coupé de l'Élysée, vous.
Mais c'est pas nous le faire. Moi, je suis pouvoir législatif. Je me bats pour qu'on ait l'indépendance des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. C'est pas pour aller interférer avec les affaires de l'État lorsqu'il s'agit de nommer ministre. Donc, sincèrement, je ne vous dirais pas que ça ne m'intéresse pas. On regarde tout ça, on en discute au Parlement, mais ça ne nous empêche pas de vivre et de bosser.
Une dernière question de politique, Stéphane Robert.
Est-ce qu'on doute quand on est député? Est-ce qu'en fonction de ce qui est en train de se passer, de l'action que vous avez à conduire sur 5 ans, vous le disiez, est-ce qu'il y a des moments où on doute un petit peu, on se pose des questions? Est-ce qu'on essaye d'avoir des réponses de la part de l'exécutif qui décide quand même de beaucoup de choses vis-à-vis de ce que vous faites, vous?
Évidemment qu'on doute. Évidemment qu'on peut douter. J'étais député, vous savez, dans le mandat précédent pendant 3 ans. Je veux dire que quand il y avait l'affaire Cahuzac ou l'affaire Thévenoud ou même Leonarda dont vous parliez, je me souviens que le jour où le président de la République fait son intervention sur Leonarda, là, cette espèce de duplex sur BFM qui avait été catastrophique pour l'image du président, j'étais en présence de la ministre de la Culture qui venait à Grenoble nous parler d'un théâtre qui avait brûlé. Évidemment, ce sont des moments de doute. Mais si vous me posez la question de la ligne politique, est-ce qu'il y a des doutes sur la ligne politique? Je peux partager parfois un certain nombre de désaccords ou modérer certaines choses qui peuvent venir de l'exécutif. Et heureusement, on n'est pas uniforme. On pense pas tous de la même façon. Peut-être qu'on pourra en discuter s'agissant de la politique sociale. Mais est-ce que je doute que notre majorité soit la bonne majorité pour réformer le pays? Évidemment non, et heureusement.
Passons à la politique sociale et tout d'abord à cette réforme des retraites avec donc une annonce effectuée hier par Jean-Paul Delevoye qui est le haut commissaire à la réforme des retraites. S'il fallait résumer cette réforme, on pourrait dire tout d'abord qu'il s'agit d'un système universel par répartition et par points. Il est censé donc apporter plus de lisibilité, plus d'équité dans ce système. Pourquoi l'avoir fait et comment être sûr aujourd'hui, et Olivier Véran, qu'il va bien tenir ses promesses, ce nouveau système?
Si vous avez compris le fonctionnement du système actuel des retraites, pardon, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Il y a 42 systèmes différents. Un Français en moyenne a trois régimes de retraite différents. Il y a une enquête qui montrait que la majorité des retraités considèrent que les retraites qu'ils perçoivent correspondent aux revenus qu'ils ont, alors qu'en réalité le système par répartition fait que ce sont les actifs qui payent pour ceux qui sont actuellement à la retraite. C'est ce que nous allons préserver. Et il y a un sentiment d'inéquité profond dans notre pays, avec d'une part des régimes spéciaux qui, même s'ils ont évolué, persistent encore dans un certain nombre de cas. Et finalement, personne n'y comprend pas grand-chose. Et vous avez en plus des prévisions des différents organismes, que ce soit la CSR ou le COR, qui sont deux organismes qui travaillent sur les prévisions, avec des courbes. Vous avez une courbe qui monte, une courbe qui est plate et une courbe qui descend. Donc on se rend bien compte que le système n'est pas suffisamment stabilisé. Et encore, ça ne tient pas compte de l'évolution du marché du travail. J'ai rencontré Jean-Paul Delevoye ce matin, avant d'arriver chez vous, qui me disait, effectivement, il faut qu'on soit capable d'être suffisamment flexible pour répondre aux grandes transformations qui peuvent affecter le monde du travail, comme avec la robotique, etc. etc. Comment est-ce qu'on réagit s'il y a une transformation profonde? L'idée, c'est que nous préparions le système de retraite qui soit inattaquable, qui soit concerté, qui soit accepté par les Français, plus universel, plus juste, plus simple, et qui puisse durer, qu'on n'ait pas une réforme des retraites tous les 10 ans.
Simon Rabaté, vous qui êtes économiste, qui travaillez sur les retraites depuis longtemps, est-ce que ce que dit Olivier Véran est vrai? Est-ce qu'effectivement, la réforme est de nature à être plus lisible, plus équitable.
C'est vrai que je pense que je partage le point de vue, en tout cas sur la question de la stabilité financière. Donc c'est vrai que c'est un gros problème, donc l'écart qu'on a dans les prévisions du devenir du régime. Et c'est vrai que c'est un des gros problèmes du système, parce que c'est ça qui pousse à refaire des réformes tous les 10 ans. Donc là, on a tous les 10 ans des nouvelles réformes. À chaque fois, on nous annonce que ça va être la dernière réforme qui va tout résoudre. Et 10 ans ou 5 ans plus tard, on a une nouvelle réforme. Et ça, je pense que c'est vraiment le type de processus politique qui nuit vraiment à la confiance des Français dans le système. Et c'est vrai que ça serait bien que la réforme puisse résoudre ce problème-là.
Mais alors, dans ces conditions, comment expliquer, Olivier Véran, qu'il y ait de plus en plus d'inquiétudes, par exemple, parmi les syndicats qui participent à cette négociation? Le fait, par exemple, que le calcul de la retraite future, il va se faire sur une période qui comprend la totalité de la vie au travail de la personne, sachant que la vie au travail de la personne, elle est aujourd'hui de plus en plus heurtée. Avant, on prenait uniquement les 6 derniers mois chez les fonctionnaires, les 25 ans chez les actifs. Bref, c'était quand même plus rassurant, non?
Moi, ce qui me rassure, en tant que cotisant, à la fois fonctionnaire quand j'étais pas parlementaire, aujourd'hui comme parlementaire, ce qui me rassure, c'est de me dire que chaque euro que je cotise vaudra la même chose finalement que si je l'avais cotisé en ayant une autre fonction, un autre métier. Enfin, je veux dire, ça c'est assez clair. Ensuite, c'est la mère des retraites, la réforme des retraites. Donc ça provoque de l'inquiétude. Vous savez, plutôt que l'inquiétude des syndicats, ou en plus de l'inquiétude des syndicats, j'entends aussi l'inquiétude des Français. Ils sont 80% à considérer aujourd'hui, ou à avoir peur, que leur niveau de pension sera insuffisant lorsqu'ils seront à la retraite. Donc le système ne satisfait pas aujourd'hui les gens.
Stéphane Robert.
Sur le plan théorique, les Français, s'ils peuvent être d'accord avec vous, le fait qu'il faut simplifier, le fait qu'il faut préserver, quand on leur parle individuellement, pour eux, ils ne sont pas prêts à lâcher le petit avantage que leur procure le régime auquel ils cotisent.
C'est du NIMBY social, c'est not in my backyard social, c'est-à-dire réformer, enlever les régimes sociaux, les régimes spéciaux, uniformiser, simplifier, mais par contre, effectivement... c'est pas latin, c'est humain. Comme réflexe. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire, de la pédagogie. Il faut expliquer aux Français, d'abord ceux qui sont à la retraite, leur dire et leur rappeler et marteler qu'ils ne sont pas concernés par la réforme, qu'ils ne seront pas touchés, qu'ils continueront à bénéficier du même système de retraite que celui dont ils bénéficient aujourd'hui.
C'est-à-dire que vous avez déjà fait beaucoup de mal aux retraités et vous,
ensuite,
La République En Marche.
Si vous voulez, on peut discuter cas par cas. Hein. C'est-à-dire, c'est marrant, on fait une politique de redistribution finalement en matière des retraites. Et c'est comme si, moi je dis, assumons-le d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez l'État qui prélève de l'argent à l'ensemble des retraités et qui va le redistribuer aux plus fragiles. Parce que quand vous revalorisez le minimum vieillesse de 100 euros, lorsque vous supprimez 30 euros pour la cotisation complémentaire santé par mois pour les retraités les plus pauvres, lorsque vous, etc., vous voyez, toutes ces mesures qui s'accumulent, qui font qu'en fait, on fait une politique de redistribution. C'est assez paradoxal qu'on nous reproche de faire la redistribution quand on l'a fait et de ne pas le faire lorsque nous n'en faisons pas.
Justement, Olivier Véran, vous parlez de minimum vieillesse et la CGT, ce n'est pas véritablement une surprise, n'est pas favorable à votre projet de réforme des retraites. J'imagine que je ne vous l'apprends pas. La CGT estime que ce projet fera baisser les futures pensions à un niveau proche du seuil de pauvreté.
Eh bien écoutez, nous n'avons pas les mêmes estimations, nous n'avons pas les mêmes mathématiciens. Alors je sais que les mathématiques et la politique font pas toujours bon ménage, j'ai écouté Stéphane Robert, mais non. Mais par contre, la concertation est ouverte et la main est tendue et la CGT est venue discuter, négocier, concerter. Ben, c'est ce que je retiens. C'est plus que les mots, c'est les actes.
Simon Rabaté.
Sur ce point, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que déjà dans le système actuel, on a une forte baisse des pensions qui est prévue à long terme. On a un taux de remplacement qui se dégrade d'environ 15 points de pourcentage. Et ça, c'est dû un peu au choix qui a été fait dans ces dernières années, qui est de bloquer le taux de prélèvement à un certain niveau, donc pour avoir un système des pensions qui reste autour de 14% du PIB, ce qui a été réaffirmé par le Haut Commissariat. Et ensuite, du coup, l'allongement de l'espérance de vie va s'ajuster par les deux autres leviers possibles, la hausse de l'âge de départ à la retraite et la baisse des pensions. Donc c'est déjà le cas dans le système actuel, en fait.
Mais alors, Simon Rabaté, parce que aujourd'hui, le système des retraites, il est à l'équilibre. C'est un équilibre précaire, puisque si d'aventure il y avait modification d'une variable, allongement significatif de l'espérance de vie ou bien diminution de la population active, cela pourrait effectivement être déstabilisé. Mais aujourd'hui, a priori, on ne voit pas l'urgence absolue. En revanche, on voit dans la réforme, par exemple, qu'il va y avoir un espace pour la capitalisation pour les hauts revenus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 300 000 Français qui ont des revenus supérieurs à 120 000 euros par an. Et alors, eux, ils ne sont pas pris en charge dans le régime général. si on veut de l'équité, est-ce qu'il ne serait pas normal de les réintégrer, de faire en sorte que ces Français qui ont des revenus très importants, supérieurs à 120 000 euros par an, ils ne participent pas à un système de retraite plus égalitaire ?
À la question de quelle part de l'épargne privée on veut financer par un système de public de retraite, elle ne concerne pas uniquement les plus riches. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on a une baisse de 15 points...
Mais eux, ils sont sortis du système général.
Oui, mais même dans le système actuel, si on a une baisse, comme je vous dis, de 15 points dans les taux de remplacement, implicitement, on suppose que les gens vont faire de l'épargne privée, donc développer la retraite par capitalisation. Aujourd'hui, si on maintient constant le taux de cotisation et qu'on estime que les retraités doivent garder le niveau qu'ils ont aujourd'hui, on attend d'eux quelque part que par eux-mêmes, ils fassent de l'épargne privée. Donc implicitement, il y a le développement de l'épargne par capitalisation. Donc ça, c'est pas seulement pour les très, très hauts revenus, c'est en prévision, c'est pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est un implicite du système qu'il faut... vraiment explicité.
Non mais si je parle des hauts revenus, Olivier Véran, vous qui êtes député La République En Marche, c'est tout simplement parce que on peut soupçonner, peut-être qu'on a tort, hein, les journalistes sont parfois inutilement
jamais,
soupçonneux.
Jamais.
Inutilement peut-être, mais en tout cas, qu'est-ce que l'on soupçonne ? On soupçonne finalement que cet espace de capitalisation pour les hauts revenus, ce soit une porte ouverte, donc je le répète, pour les revenus qui sont 8 fois supérieurs au plafond de la Sécurité sociale, finalement, de faire en sorte que ces gens-là, eh bien, ils ne soient pas soumis aux mêmes règles que les autres salariés.
Alors 120 000 euros, c'est 3 fois le plafond. Hein. C'est 40 000 euros le plafond de la Sécurité sociale,
mais
ce qu'on appelle 3 passes.
Et les revenus, ils sont pris en compte pour la retraite jusqu'à 8 fois le plafond.
Voilà, ils sont pris en compte jusqu'à 8 fois le plafond. Après, il faut faire la différence entre, si vous avez un plafonnement des prestations, vous avez qui est une forme de plafonnement des cotisations, qui est quelque chose qui peut s'entendre, parce que sinon, c'est nos limites. Il reste à définir le niveau de plafonnement et le niveau de prélèvement. Mais plus sobrement, je rappellerai que dans notre pays, il y a aussi des retraites complémentaires, c'est-à-dire que chacun est libre de cotiser à côté du système de retraite obligatoire pour une retraite complémentaire, pour avoir un complément de revenu, et si vous ne l'avez pas et que vous avez de l'argent, vous pouvez aussi l'investir dans la pierre ou dans d'autres choses que vous pouvez utiliser pour avoir des revenus du capital. Donc ça c'est pas nouveau, voyez.
Autre aspect qui est important et qui là ne semble pas très présent, l'égalité entre les hommes et les femmes. Ouais. On l'a dit, il y a une inégalité entre les femmes qui sont très majoritaires à la retraite. 57% des retraités sont des femmes et ces femmes, elles touchent des pensions qui sont 14% en moyenne inférieures à celles des hommes. Pourquoi n'y a-t-il pas quelque chose de spécifique, de prévu pour rééquilibrer les pensions ?
Alors, rééquilibrer les pensions, étant donné que ce sont les personnes qui cotisent actuellement, qui payent les pensions des retraités qui sont actuellement à la retraite, c'est un petit peu plus compliqué que d'anticiper l'avenir. Mais pour anticiper l'avenir, Jean-Paul Delevoye fera des propositions pour tenir compte, par exemple, de la maternité, etc. Ensuite, l'écart qui est absolument inacceptable, hein, entre les niveaux de pensions de retraités, des pensions de retraite entre les hommes et les femmes, s'explique par les écarts de revenus pendant la période active, pendant la durée de période d'activité, etc. Vous aviez encore énormément, il y a 10, 15 ou 20 ans, de femmes qui travaillaient mais sans être forcément déclarées, qui travaillaient avec leur mari, etc. Ça, tout ce vieux modèle-là qui a disparu, qui est en tout cas en train de s'effacer aujourd'hui, de disparaître, et que nous essayons de rattraper. Mais vous avez rappelé que, vous ne l'avez pas rappelé, mais je vais le faire à votre place, que l'égalité femmes-hommes est l'enjeu majeur du quinquennat. Donc nous y travaillons évidemment, et donc la réforme des retraites en fera partie.
Stéphane Robert.
Vous en parliez à l'instant, mais c'est cette question des pensions de réversion. Il a été question qu'elles soient supprimées. Ouais. Finalement, non. On n'a pas bien compris ce qui s'était passé à ce moment-là.
Moi non plus, parce que j'ai lu dans la presse qu'il était question qu'elles soient supprimées, mais j'ai entendu aucun responsable politique dire qu'il était envisagé de les supprimer. Donc je crois que le chapitre a été clos. Il a été clos par le Premier ministre et par le Président de la République.
Mais tous ces signaux, quand même, Olivier Véran, ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent de l'impression... Vous allez me dire ce que vous pensez de cette impression, que ce gouvernement s'occupe principalement des premiers de cordée.
C'est pas mon opinion. Vous savez, j'ai travaillé dans le cadre du plan pauvreté qui a été annoncé il y a 3 semaines. Le plan pauvreté, il comporte énormément de mesures pour venir en aide aux plus précaires dans ce pays. C'est ce qu'on appelle le modèle d'État-providence du 21e siècle. C'est comment est-ce qu'on permet à chacun d'avoir accès à une formation, à un emploi pour sortir de la pauvreté et de la misère. J'ai été député d'une autre majorité. Je vous le dis, le plan pauvreté qui est présenté aujourd'hui et le budget de la sécurité sociale qui en est une forme de traduction sont des mesures extrêmement ambitieuses. Il serait quand même paradoxal de ne pas nous féliciter d'un plan pauvreté qui est salué à la quasi-unanimité par l'ensemble des ONG, des associations, des acteurs de terrain, des acteurs sociaux, etc. Donc, il faut
On est tout prêt à vous en féliciter, oui. Mais d'abord, exposez-nous les points principaux de ce plan pauvreté qui vous paraît être un plan beaucoup plus juste que les plans précédents.
D'abord, on fait le constat qu'il y a 1 enfant sur 4 qui est pauvre dans notre pays, qu'il y a 9 millions de pauvres et que la pauvreté ne cesse de s'accroître depuis 20 ans dans notre pays. Donc, nous voulons gommer les inégalités sociales. Quand on fait en sorte qu'il y ait 2 fois moins d'élèves dans les classes de CP, CE1, dans les zones d'éducation prioritaire, lorsqu'on fait en sorte que les enfants puissent puisse prendre des petits déjeuners gratuits à l'école pour ne pas arriver le ventre vide. Ça vous paraît peut-être rien, mais
non,
en Écosse, là où ça a été fait, un enfant
rien.
Qui prend son petit déjeuner à l'école alors qu'il ne le prenait pas à la maison jusqu'à présent gagne un mois d'apprentissage de la lecture et des maths par an. Un mois, c'est énorme. Vous évitez de creuser des inégalités. Vous avez des dépistages, des examens de prévention sanitaire pour des enfants qui aujourd'hui n'ont pas forcément un accès très facilité aux soins, qui peuvent développer des surdités sans qu'on s'en rende compte. Vous avez énormément de choses, la transformation de ce qu'on appelle l'aide à la complémentaire santé pour 1,5 million de Français en CMU complémentaire. En gros, vous payez 30 euros de moins par mois pour avoir une complémentaire qui vous couvre mieux lorsque vous êtes au niveau du seuil de pauvreté. Ça, c'est aussi, c'est une mesure qui est importante. Et puis, ce que le président de la République a annoncé, pour moi, c'est le chantier majeur de ce mandat aussi, c'est le revenu universel d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous verser des prestations sociales, non pas en fonction de vos besoins actuels, mais en fonction de vos revenus d'il y a 2 ans ou d'il y a 1 an. Ceux qui perçoivent les APL savent que parfois, ils touchent des APL alors qu'ils ont trouvé un emploi, alors qu'ils en auraient eu plus besoin l'année dernière. C'est un énorme chantier qui va nous mobiliser pendant 2 ou 3 ans pour être capable de déterminer cela et de faire un seul versement de l'ensemble des prestations sociales aux contribuables français. Et en même temps de cela, eh bien, tout le monde sera accompagné sur le retour à l'emploi et à la formation. Quand on regarde les chiffres des bénéficiaires du RSA, dont plus d'un sur deux n'a aucun accompagnement vers le retour à l'emploi, on se demande ce qui est devenu le A de actif. Vous voyez, je pourrais vous faire une liste à la Prévert, ça n'a pas d'intérêt, mais sachez qu'il y a de l'argent, des moyens et surtout une très forte mobilisation pour que ce soit plus émancipateur, plus universel pour l'ensemble des Français et responsabilisant aussi.
La politique sociale de votre gouvernement, enfin du gouvernement que vous soutenez, puisque vous êtes député de La République En Marche, Olivier Véran, elle insiste effectivement beaucoup sur la petite enfance. Il y a toute une série de choses sur les crèches. Alors les crèches, ça concerne aussi bien sûr les parents, un accueil donc pour les enfants des familles les moins favorisées. Il y a a priori un chiffrage important puisque on évoque 8 milliards sur 4 ans, donc ça n'est pas un plan effectivement qui manque d'ambition. Il a toutefois une philosophie et cette philosophie, elle consiste à permettre l'autonomie des personnes. Et l'autonomie des personnes, elle pose problème pour ceux qui, justement, n'ont pas nécessairement la possibilité d'être autonomes, parce que c'est compliqué aujourd'hui de se repérer dans le monde, par exemple, pour traverser la rue et trouver un emploi. Bon, évidemment, quand on en est capable, ça ne pose pas de problème. Peut-être trouve-t-on un emploi, mais quand on n'est pas capable de ça, on a l'impression, là aussi, que c'est un peu la tâche aveugle sur ce plan pauvreté.
Eh bien, écoutez, vous avez parfaitement raison de souligner qu'il y a des gens qui sont éloignées de fait et durablement de l'emploi et de la formation. Ce sont les personnes qui sont trop âgées. Elles perçoivent en général le minimum vieillesse. Nous l'augmentons de 100 euros par mois en 3 ans. C'est la plus grosse augmentation depuis qu'il existe. C'est-à-dire que nous allons passer le seuil de pauvreté enfin pour ces personnes âgées. Vous avez les personnes qui sont avec un handicap trop lourd pour pouvoir accéder à l'emploi, qui perçoivent l'allocation adulte handicapé pour certains d'entre eux. Eh bien, cette allocation, pareil, elle est augmentée de 100 euros. Donc, dès que vous avez des gens qui sont vraiment très éloignés de l'emploi et de la formation, vous avez un effort monétaire important, le plus important qui a été fait depuis quelques années. Et lorsque les personnes sont éloignées pour des situations sociales ou des situations familiales, par exemple, de l'emploi, mais que rien ne les empêche d'en bénéficier, nous mettons le paquet. L'exemple, dans le budget de la Sécu, Agnès Buzyn présentait hier, vous avez une augmentation du complément de mode de garde et le tiers payant. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une mère isolée avec des enfants aura une aide plus importante de la part de l'État pour faire garder ses enfants, pour pouvoir aller travailler et retrouver son travail plus rapidement. Donc vous voyez, vraiment, il y a une adaptation à la carte, mais on ne peut pas considérer que l'emploi ne soit pas lié à la pauvreté. C'est factuel. La perte d'emploi, le chômage est la première cause d'entrée en pauvreté et le premier moyen de s'en sortir, très loin devant les autres, c'est de retrouver un emploi. Donc considérer que l'emploi ne soit pas la clé de l'émancipation sociale, c'est faire l'impasse sur ce que nos voisins ont bien compris depuis longtemps.
Là, effectivement, je pense qu'il y a consensus là-dessus, sur le fait que c'est...
Politique. Vous savez, il y a des gens qui considèrent que l'emploi est un petit plus ou que l'emploi nous éloigne du bonheur. Enfin, c'est le discours qu'on a entendu pendant la présidentielle. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important parce que le rapport que nous entretenons avec le travail, c'est quelque chose qui est puissamment social et sociétal.
Bon, mais
débat.
Si on part du postulat que, effectivement, aujourd'hui, en l'absence d'un revenu universel, puisque c'est ce que vous évoquiez implicitement, Olivier Véran, en l'absence donc d'un revenu universel, il va falloir que les individus vivent de leur travail et donc les aider à trouver un travail. Être autonome, encore une fois, je reformule la question que je vous posais tout à l'heure. Quand quelqu'un n'a pas le bagage culturel, le bagage psychologique aussi, pour aller vers l'emploi, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'aider ? On n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose, si quelque chose peut être fait, parce que peut-être que vous dites au gouvernement que ça n'est pas possible de faire quelque chose pour ces Français-là.
Ah non, au contraire. Vous avez la réforme de la formation professionnelle, le paquet qui est mis sur l'apprentissage. C'est aussi pour faire le constat qu'il y a des métiers dont nous manquons. Par exemple, chez moi, on manque de gens diplômés en chaudronnerie. Je discutais avec quelqu'un, un copain qui dirige une start-up qui fait dans le programme Internet, qui me disait, trouver des développeurs Internet aujourd'hui, le niveau de rémunération d'un développeur en début de carrière, eh ben, il est vachement plus haut que ce qu'il a été il y a quelques années. Donc, on se rend bien compte qu'avec des formations parfois sur quelques mois ou sur une ou deux années, on est capable de permettre à quelqu'un d'avoir non seulement un emploi, mais en plus d'avoir un emploi qui lui permettra de vivre très correctement. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Nous avons franchement, le dossier de la réforme de la formation professionnelle, on en a finalement peu parlé parce que ça fait moins de vagues que ce qu'on craignait. Moi, j'étais le premier à redouter cette réforme du point de vue de l'accueil par les syndicats. Chacun avait tellement conscience de l'importance d'arriver à réformer cette formation professionnelle que finalement, le dossier s'est plutôt bien déroulé. Et quand vous dites que les bénéficiaires du RSA, dans des départements, 80%, il y a des quatre départements dans lesquels 80% des gens qui ont le RSA, revenu de solidarité active, ont vu le A disparaître. Ils ne sont même pas reçus au bout d'un an pour qu'on leur demande s'ils sont dans une formation ou ce qu'ils souhaiteraient faire. Donc l'État-providence du 21e siècle, lorsque le président de la République dit il doit être plus responsabilisant, il doit être plus responsabilisant pour l'État qui doit assurer ses missions d'offre d'emploi et de formation et ne laisser personne sur le bord du chemin, il doit être plus responsabilisant pour les gens qui sont sans emploi et sans formation pour leur permettre d'y accéder.
Une dernière question, Stéphane Robert.
On a le sentiment que dans toutes les décisions que vous prenez, que ce soit pour la formation professionnelle, pour le plan pauvreté, la sécurité sociale, c'est qu'il y a une volonté de responsabiliser chacun des acteurs. Vous estimez qu'il y avait un déséquilibre dans ce sens-là, qu'il faut rétablir un équilibre ?
Chacun des acteurs, c'est aussi responsabiliser l'État. C'est d'ailleurs que par ça que j'ai commencé. Parce qu'il y a des missions régaliennes pour lesquelles, eh bien, l'État a pu être déficient. Et quand on peut en faire la liste, si vous voulez, le principe de continuité territoriale lorsqu'on parle d'accès aux services publics et privés, etc. Mais la responsabilité, elle concerne évidemment aussi les Français. Puisque nous avons un peu perdu le sens des cotisations sociales, le sens de l'impôt, de pourquoi est-ce que nous payons, pourquoi est-ce que nous contribuons au fonctionnement collectif. En face, vous avez des services, vous avez l'école, vous avez les transports, vous avez l'emploi, etc. Donc il est important que les Français fassent société. Et pour cela, il est effectivement important de les responsabiliser quant au fonctionnement de la société. Mais ils le savent parfaitement d'ailleurs. Et quand on fait des enquête d'opinion, par catégorie de population ou de salariés, on se rend compte qu'il y a cette attente. Et c'est un vrai sujet pour les Français. C'est pas un gros mot, responsabilité. Mais moi, alors, je suis fier d'être en responsabilité. Voilà.
Mais alors, en conclusion, si toutes ces mesures sont aussi sociales que vous le dites, pourquoi ce gouvernement a une image aussi peu sociale? Alors, est-ce la faute des journalistes? Vous pouvez profiter, vous êtes sur France Culture, dites du mal des journalistes ou alors dites du mal de ceux qui travestissent la politique du gouvernement.
Si vous voulez qu'on discute du journalisme, vous pouvez me réinviter pour faire une émission spécifique. Il faut un peu plus de temps que ça. J'ai pas envie de balancer une punchline là. Et franchement, je vous aime bien, donc j'ai aucun problème avec les journalistes.
Non, mais pour le reste. Mais pour le reste,
c'est ce que vous me parlez du sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire qu'on aurait collé une étiquette au président dont il n'arriverait pas à se défaire.
Moi, je crois aux faits.
Et les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. Il nous reste 4 ans. Vous savez, je vois l'image du président de la République. Il n'y a pas de détestation. Les gens sont pas du tout, ils peuvent être en colère ou en attente quant aux résultats de la politique que nous menons. Mais il n'y a pas du tout de perte de contact entre le président, le gouvernement et l'ensemble des Français. Donc des résultats, mais je peux vous dire qu'on travaille pour cela et on a tous une motivation collective très forte.
Olivier Véran, vous êtes député La République En Marche de l'Isère et rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Vous restez avec nous, ainsi que Simon Rabaté, économiste à la Paris School of Economics